Merci beaucoup, Marie-Monique Robin, pour ce mot d'introduction. Alors, je ne vais pas faire vraiment une synthèse de la matinée, mais peut-être quelques remarques sur ce qui a été dit, ce que nous avons entendu. D'abord, nous avons beaucoup parlé des inconvénients, des externalités négatives de l'agriculture industrielle, et c'est d'ailleurs le thème par lequel l'intervention de Marie-Monique Robin ce matin a commencé. Nous avons aussi parlé des avantages de l'agroécologie, et il a été dit en particulier que cette manière différente de concevoir la production agricole en interaction avec les écosystèmes et maximisant les complémentarités naturelles entre les différentes plantes, arbres et animaux, en reconstituant à l'échelle de la ferme, de la parcelle, les cycles naturels de la nature, pouvaient bénéficier aux agriculteurs, rendant l'agriculture plus abordable, réduisant la dépendance sur les intrants externes et favorisant naturellement le meilleur respect de l'environnement, la meilleure santé des sols. Tout cela a été dit. On n'a peut-être pas assez insisté sur un aspect complémentaire qui est le bénéfice du point de vue de la nutrition, de systèmes de culture qui soient plus diversifiés et qui peuvent contribuer à des régimes alimentaires eux-mêmes plus diversifiés et reposant sur des aliments peut-être plus sains et moins fortement transformés. C'est un aspect de l'agroécologie, celui qui est lié à la santé humaine, qui me tient particulièrement à cœur. Alors, ce qui a été davantage discuté, c'est au fond les obstacles à la transition et la manière de les surmonter, ces obstacles. Je dirais pour ma part que dans mes missions et dans mes dialogues avec le gouvernement, ce sont essentiellement sept difficultés que je vois et qui sont un peu les verrous qu'il faut actionner ou qu'il faut déverrouiller pour opérer ces transitions avec succès. Le premier obstacle, c'est une certaine marginalisation de la petite agriculture, des exploitations dites familiales, que l'on a, au fond, pas suffisamment intégrées dans le champ des politiques publiques, essentiellement, je crois, parce que ce sont des exploitations familiales qui, même si elles sont très productives à l'hectare, et Marie-Monique Robin a rappelé que les petites fermes, les petites exploitations étaient, dans toutes les régions du monde, plus productives à l'hectare que les grandes exploitations pratiquant à l'échelle industrielle la production agricole, elles sont en même temps moins compétitives sur les marchés. Elles sont moins bien outillées pour produire à bas prix les intrants dont l'industrie agroalimentaire de transformation a besoin pour fournir des aliments transformés aux consommateurs. Et donc il y a au fond un écart ici entre ce qu'il faudrait pour récompenser les agricultures les plus productives dans l'utilisation qu'elles font des ressources naturelles, d'une part, et d'autre part, ce que le marché récompense et ce qui est considéré comme étant le plus concurrentiel. Ça me paraît un premier obstacle important. Deuxième obstacle, c'est au fond que beaucoup de nos politiques agricoles, et c'est vrai en France comme dans d'autres pays, ont été focalisées sur l'objectif d'augmenter la compétitivité à l'exportation pour les plus compétitives d'entre les producteurs, d'entre les exploitations agricoles. Et cette focalisation sur l'export signifie une focalisation sur les grands volumes, sur l'uniformité plutôt que sur la diversité, et c'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut créer des débouchés pour les productions qui respectent certains critères, je viendrai à ce mot de critère un peu ambigu, agroécologique, parce que sans ces débouchés, les agriculteurs ne seront pas incités à s'inscrire dans cette transition que beaucoup d'entre nous ici appelons de nos voeux. Troisième obstacle qui a été bien mis en lumière par plusieurs intervenants, et notamment par Fabien Liagre de l'Agrof, c'est au fond que la recherche dans l'agroécologie n'a pas été suffisamment promue. C'est vrai que la recherche s'est focalisée sur les grandes céréales, très largement, dans les programmes publics de recherche. C'est vrai que beaucoup d'argent a été investi dans la biotechnologie et beaucoup moins dans l'identification des bonnes pratiques agroécologiques. Et c'est vrai aussi qu'on a focalisé la recherche sur ce qui pouvait rapporter des bénéfices à court terme, notamment sous forme de brevets ou de certificats d'obtention végétale, et qu'on n'a pas du tout incité une recherche qui, à long terme, est celle dont nous avons besoin, des pratiques qui respectent davantage l'environnement et qui permettent de contribuer à des systèmes agroalimentaires durables. Je crois d'ailleurs que dans la recherche en agronomie, un des obstacles à ce que l'agroécologie progresse, c'est que Il n'y a pas de débouchés commerciaux évidents pour les bonnes recettes agroécologiques, comme on peut avoir des débouchés intéressants pour des nouvelles variétés végétales qui sont obtenues à travers la recherche. Et donc, c'est moins intéressant pour des laboratoires d'investir dans l'agroécologie que dans d'autres lignes de recherche. Quatrième obstacle, c'est, et je crois que c'est un obstacle important, bien que souvent sous-estimé, c'est un obstacle culturel. Au fond, la modernisation de l'agriculture a toujours été perçue comme une industrialisation toujours plus poussée. Et c'est un obstacle qui est encore plus vrai dans le Sud, dans les pays en développement où je me rends souvent, où on ne conçoit pas d'autre trajectoire pour l'agriculture que celle que nous avons eue dans les pays développés depuis les années 1930 ou 1940. Or, la modernisation de l'agriculture peut prendre d'autres formes, et il ne s'agit pas ici d'exprimer une nostalgie pour une agriculture traditionnelle à bas rendement. L'agroécologie, c'est l'agriculture de pointe, celle qui convient au XXIe siècle, et c'est un préjugé qu'il faut rompre, qu'il s'agit là d'un retour au passé, à des formes d'agriculture qui n'ont pas montré leur capacité d'être performantes. Cinquième obstacle, et ceci a été très bien mis en lumière, notamment dans l'intervention de Christophe Alliot et Sylvain Lee pour Satori, le bureau d'études Satori. Je pense qu'il est tout à fait clair que les externalités négatives de l'agro-industriel sont généralement sous-estimées et ne sont pas totalement intégrées dans le calcul du coût véritable de la production. Je crois que ceci fait obstacle à une comparaison objective des différents systèmes agricoles et des différentes trajectoires de développement agricole, et c'est la raison pour laquelle les indicateurs qu'ils cherchent à développer, ou plus précisément les évaluations qu'ils cherchent à promouvoir, sont tout à fait importants dans la réussite de cette transition que nous appelons de nos voeux. Enfin, dernièrement, s'est posée la question, dans une des interventions, celle de François Thierry, de la certification de l'agroécologie. La crainte qui a été exprimée, c'est au fond la crainte d'une récupération de cette mode de l'agroécologie, la crainte d'une instrumentalisation du concept. Ne faudrait-il pas alors définir de manière plus précise ce que l'agroécologie suppose, requiert, pour éviter ce qui a été appelé le greenwashing, c'est-à-dire la revendication de pratiques agroécologiques qui ne correspondraient pas à la réalité de ce que les acteurs du monde de l'agroécologie entendent véritablement par là. Alors, ici, moi je dirais qu'il y a effectivement un débat à avoir sur la coexistence de différentes compréhensions et définitions de l'agroécologie. Il y a une définition qui est assez restrictive, qui consiste à dire l'agroécologie, c'est au fond l'intégration plus poussée des exigences environnementales dans de la production agricole par la diffusion des bonnes techniques de gestion des ressources qui sont nécessaires dans un monde de ressources rares. Et au fond, c'est tout à fait important comme composante de l'agroécologie, et c'est vrai qu'en imposant certaines conditions, restrictions environnementales, l'on peut provoquer des innovations, et François Thierry l'a très bien dit, de la contrainte peut naître l'innovation. En même temps, ces innovations, j'en ai la conviction, ne peuvent pas se déployer, se développer, si ces innovations ne sont pas soutenues par des structures d'accueil plus larges qui permettent à ces innovations de prospérer. Les niches d'innovation ne pourront pas se déployer si le contexte dans lequel ces niches se développent n'est pas aménagé pour leur faire un meilleur accueil. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une définition peut-être plus ambitieuse de l'agroécologie, qui intègre non seulement l'étape de la production, mais aussi les autres composantes des systèmes agroalimentaires, et qui récompense et encourage les innovations sociales. Et c'est la raison pour laquelle le travail de Satori me paraît tout à fait important, c'est que ce n'est pas une certification, un label qu'il prétend donner ou inventer. Par contre, il prétend encourager la transition en donnant aux consommateurs, les moyens de faire des choix éclairés par des chiffres qui sont très parlants, qui consistent à mesurer les impacts sociaux et environnementaux de différents types de production. Ceci ne préjuge pas des moyens qu'on va mettre en œuvre pour pratiquer l'agroécologie, qui est en invention et en réinvention permanente. Par contre, cela impose une obligation de résultat, et cela va à l'encontre du seul critère qui est aujourd'hui celui que le consommateur utilise, qui est le critère du prix, et qui nous conduit dans une agriculture low cost, mais qui est en fait une agriculture qui est en perte de vitesse. Je vous remercie.
Alors Olivier, quand on s'était rencontré, vous aviez dit que l'un des principaux obstacles à une transition massive vers l'agroécologie, c'est qu'il nous faudra, je vous cite, conduire une véritable cure de désintoxication de nos champs, de nos paysans et de nos hommes politiques. Est-ce que vous pouvez préciser ce que vous voulez dire, vous vouliez dire?
Oui, donc l'expression de désintoxication était utilisée à dessein, même si la mémoire de Marie-Monique Robin est effectivement redoutable, parce que nous sommes dans une assuétude. Nous sommes dans une assuétude qui suppose que l'on réfléchisse non pas seulement à l'horizon que nous voulons, mais aussi aux étapes, ça devient une banalité que de le dire, mais aux étapes qui peuvent nous permettre d'arriver à cet horizon. Et ces étapes doivent prendre en compte le coût de la transition et les résistances qu'une perspective axée sur le court terme va nécessairement susciter. Et donc, il faut faire à notre système, il faut faire à notre système une trajectoire qui suppose que l'on prenne en compte ces coûts de la transition et que l'on aménage les conditions qui vont permettre de l'effectuer pas à pas. Et je pense qu'il ne faut pas mépriser, sous-estimer les obstacles, par exemple des agriculteurs qui aujourd'hui utilisent des doses importantes d'engrais chimiques ou de pesticides parce que c'est ce qu'on leur a appris et parce que les énergies fossiles sont encore fortement subsidiées, ce qui rend apparemment viable ce système. Il faut effectivement aménager cette transition, mais ça suppose une réflexion très explicite sur le moyen terme, sur le passage qui peut prendre 5 ou 6 années. Ça a été rappelé tout à l'heure, notamment par Fabien Liagre. Passer d'un système à un autre peut réclamer plusieurs années, et pendant ces années, il faut effectivement des mesures qui aménagent la transition. Alors, Fabien Liagre avait proposé notamment un mécanisme financier de stabilisation des revenus pour favoriser l'innovation et l'expérimentation par les agriculteurs vers des pratiques d'agroforesterie, mais c'est peut-être une proposition qu'il faudrait généraliser pour que l'agroécologie puisse avoir des chances de se déployer à plus grande échelle.